Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Derrière le rideau. Bonjour Fabrice, bonjour William.
Salut Rebecca, salut Fabrice.
Donc si vous vous souvenez bien, en mars dernier, nous avons eu la chance d'avoir Bernard Gouet qui nous a parlé donc de son papa compositeur Émile Gouet. Et aujourd'hui en fait, nous avons de nouveau donc Jean-Baptiste Prunet et Bernard Gouet qui sont revenus parce que c'est le 70 ans de la mort du compositeur Émile Gouet et donc du coup, nous avons décidé de poursuivre un petit peu
raconter la deuxième partie de la vie d'Émile Gouet et sa fin de vie. Donc il ne reste plus que 5 ans à vivre, mais c'est 5 années très actives.
Voilà, merci. Voilà.
En octobre 39, c'est la mobilisation générale et le début de la drôle de guerre. Donc, Émile Gouet part à Montigny-les-Metz, il retourne à sa batterie de repérage par le son et il va vivre une période relativement difficile et désœuvrée dans des conditions où écrire de la musique, jouer de la musique sont presque impossibles à faire pour lui. Et il organise donc des concerts sur le front et ils attaquent également un hiver très froid, l'hiver 39-40. Est-ce que vous voulez faire un petit commentaire sur la période de la drôle de guerre et les activités musicales de votre papa Bernard ?
Oui, je pense que au point de vue des activités, il y avait, à part les activités militaires, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il passait son temps, une fois que les baraquements, tout ça, tout était installé, il n'y avait rien à faire. Il avait eu la chance de récupérer un piano et il jouait beaucoup de piano lui-même, à tel point que la population autour disait « c'est pas en jouant du piano qu'il va gagner la guerre ». Bon, c'est pour dire qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Mais il s'ennuyait terriblement et il passait son temps à remonter le moral de son épouse qui, elle, se demandait toujours est-ce qu'il va pas être bombardé, ceci et cela. Il lui écrivait une lettre par jour et il n'y a rien dedans qui concerne directement la musique.
Donc les conditions de travail sont difficiles. Mais il arrive quand même à écrire une pièce qui s'appelle La Ballade.
Alors La Ballade, il l'écrit, mais il va la reprendre d'ailleurs beaucoup plus tard. Il l'écrit pour une formation.
Une ballade pour quatuor vocal. Pour soprano, quatuor vocal et quatuor à cordes.
Mais après,
et piano.
Et piano va rajouter. Sur un poème d'Émilie Brontë.
Et donc là, c'est l'invasion allemande par le Nord. On ne l'attendait pas par là, par la Belgique, après l'invasion de la Hollande et de la Belgique. C'est le Blitzkrieg, comme on dit en allemand. Et donc, grande débâcle de l'armée française. Et donc, c'est une retraite des armées françaises vers le sud, vers la Haute-Saône, la Franche-Comté, les Vosges. Votre papa est fait prisonnier. C'est un homme qui a un certain sens de son indépendance, une certaine conscience politique. Il s'évade. Et il est repris à Gérardmer. Et puis, donc repris, il est dirigé vers le premier camp de transit. Le camp de Neuf-Brisach, ouais. C'est ça. Et donc là, ils sont parqués avant d'être transférés dans le nord de l'Allemagne pour Émile Gouet, qui était donc sous-lieutenant de réserve. Émile Gouet part pour Nienburg an der Weser, au nord de l'Allemagne.
Thank you.
là, va s'organiser une nouvelle vie, une vie de prisonnier entre hommes. Il est donc, en tant qu'officier de l'armée française, il est affecté dans un no-flag. Il va se retrouver avec des officiers anglais, des officiers de diverses nationalités, des officiers français, des polonais, etc. Dans des conditions difficiles au début, très difficiles. Et donc, il va avoir du mal à composer, du mal à se concentrer. Et donc Thiriet, Damet, Lannoy composent des pièces religieuses, et aussi Émile Gouët qui compose un psaume 123, « Ate levavei oculos meos », donc « Je lève mes yeux vers toi », qui est donc une pièce pour chœur a cappella, chœur d'homme, quatuor à cordes et clavier. Et donc cette pièce sera montée avec succès au camp, en même temps que des extraits de Parsifal de Wagner, et va rencontrer un certain succès, et je dirais, il y aura même quelques comparaisons qui seront faites entre la musique de Wagner et la musique d'Émile Gouët, bien que ces musiques soient distantes. Coquelin est à Paris. La pièce est jouée à Paris en 1942, sensiblement plus tard. Et il écrit à Yvonne Gouët, « J'ai entendu avec émotion et admiration le psaume de votre mari, qui est d'un sentiment poignant et d'une force attachante. » Pendant toute cette période, Émile Gouët va développer une activité intense au camp, une activité, je dirais, éducative, universitaire, musicale. Donc il faut qu'on parle un tout petit peu quand même.
Donc il va recréer en gros la vie qu'il menait de pédagogue. Il va créer une université dans le camp, je parle sous le contrôle des spécialistes. Il va donner des cours d'esthétique, c'est ça ?
Oui, alors il y a un aspect scientifique, il va écrire un cours d'optique, un cours de géométrie, un cours de thermodynamique et un cours d'esthétique musicale. Et des cours d'histoire de la musique, hein, n'est-ce pas ? C'est ça, à peu près ?
Oui, dans tous les camps de prisonniers, il s'est créé des universités qui permettaient aux jeunes, aux officiers en particulier, de poursuivre leurs études. Et la chose remarquable, c'est qu'il y avait des universités de flag, j'allais dire, dont les diplômes, en particulier, ont été reconnus à la suite par les autorités civiles. C'est-à-dire qu'un étudiant en sciences physiques a pu faire sa licence sans... Et là, mon père a donc donné des cours, effectivement, dans le cadre de cette université, qui était spécifique. 10B, mais il n'y avait pas qu'à cette flag-là, si vous voulez. En ce qui concerne la musique, c'était plus une... détaché de cette université, c'était plus une démarche personnelle. Il a commencé par l'histoire de la musique, parce que dès novembre, je crois, parce qu'il avait ça sous la main. Et petit à petit, il a donné effectivement ses cours de composition et ses cours d'esthétique, d'histoire de la musique.
Il y avait une bibliothèque au camp qui permettait de...
On pouvait envoyer, il a écrit à ma mère, envoie-moi tel et tel bouquin, les cours de Quéclin, envoie-moi le Combarieux, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Et il avait une bibliothèque, et les Allemands leur permettaient d'avoir des livres comme ça, il y avait une très bonne bibliothèque.
Il fait même venir des partitions, j'ai noté ça, de Berg, de Schoenberg et de Hindemith.
Oui, c'est ce que l'on trouve dans ses lettres de début d'octobre 40.
Ils sont des musiciens interdits.
Ils sont théoriquement des musiciens interdits, mais ils ont surtout été interdits, enfin au moins de ce que j'ai pu en déduire de témoignages de personnes en concert à l'OFLAG. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu jouer. Ils avaient demandé Ciboulette, ils n'ont pas merci la partition.
Hein. Reynaldo Hahn.
Mendelssohn était interdit en concert aussi.
Voilà, donc ça nous fait dire une chose, c'est qu'il y avait des concerts dans le camp.
Oui.
Ce que permettaient les accords de Genève, il fallait que les officiers n'avaient pas le droit de travailler. Enfin, ils ne devaient pas être soumis au travail obligatoire, contrairement aux simples soldats, et ils devaient pouvoir développer leurs connaissances, leur vie culturelle et développer des loisirs.
Donc ça nous dit aussi une autre chose, c'est que les partitions étant autorisées à rentrer, la censure allemande se faisait après.
Les partitions passaient à la censure, c'est-à-dire que moi j'ai des partitions avec des tambours de l'OFLAG dessus, je crois même j'ai des trucs d'Ablerberg dessus. Mais c'était... J'ai pas retrouvé de partition achetée de ce type-là après cette lettre de 40.
Donc, Émile Gouet, très énergique, monte un orchestre de 40 musiciens. Alors, pas tous professionnels, un certain nombre d'amateurs, j'imagine.
Que des amateurs. Le plus fort, c'était un premier prix de violon de Damien.
Et donc, quelle musique vont-ils jouer?
Toutes
sortes de musiques depuis le XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, c'est ça?
Y compris Wagner, etc. La seule chose, alors là, je peux me permettre...
On va dire même surtout Wagner, j'imagine.
Oui, voilà. Ça, c'est très embêté. Ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est que, je crois que c'est en 44, je ne sais plus quel mois, ils ont joué Le Crépuscule des Dieux et...
des extraits?
La danse macabre. Vu l'époque, je me suis demandé si c'était de l'humour caché. Je jouais ça après le débarquement des Américains et tout, quand tout commence à aller mal, c'est quand même assez bizarre. Mais moi, ça me fait rire. Alors, c'est quelque chose.
Et donc, il écrit de la musique pour ses amis codétenus.
Oui.
Et il va écrire des œuvres didactiques.
Oui.
En particulier, cette petite suite facile, Pourquoi toi raccordes, en trois parties, qui comprend un roraté. On est en période de Noël 1940. Il met en musique l'hymne de l'Avent très connu qui s'appelle le Roraté des Coeli Super. Ciel répand sur nous ta rosée. Un Noël qu'il a qualifié de languedocien, qui est en fait un Noël provincial très très connu de tous nos auditeurs, je pense, vous allez pouvoir l'écouter.
Vous venez d'écouter un extrait de la petite suite facile pour quatuor à cordes, opus 28, donc composé en 1940 par Émile Gouet. Et ce que vous venez d'entendre, c'est plus particulièrement un extrait du Noël languedocien, le troisième mouvement de ce quatuor à cordes, interprété par le quatuor...
Joachim.
Donc...
Il va contribuer aussi au spectacle du camp. Donc il y a plusieurs spectacles qui se montent. Un spectacle sur la vie de Saint-Martin qui s'appelle L'Apôtre. Il arrive également à composer son deuxième quatuor à cordes.
D'accord.
Voilà.
À la semaine prochaine à tous. Bonne journée.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
À bientôt.